Vous écoutez France Culture. Conférence de l'Université populaire de Michel Onfray, le génie de l'hédonisme, 8e année, la fabulation freudienne, Sigmund Freud. Aujourd'hui, les raisons d'un succès, 2e volet.
Bien, bonsoir. Je voulais poursuivre la conclusion, entamée la dernière fois, et essayer d'examiner ce que j'avais appelé les raisons d'un succès. Pourquoi est-ce que Freud, le freudisme et la psychanalyse ont pu fonctionner comme ça a pu fonctionner au XXe siècle, c'est-à-dire comme une idéologie dominante sur le XXe siècle européen, mais pas seulement européen. Et je vous avais proposé d'examiner cinq raisons, en sachant très bien que ces cinq raisons n'épuiseraient évidemment pas le sujet et qu'on pourrait en trouver d'autres, qu'on pourrait déplier, déployer, expliquer ailleurs et autrement pour essayer de voir pourquoi et comment l'aventure d'un personnage, l'aventure solitaire d'un personnage est devenue une aventure collective de l'humanité. J'avais donc abordé la dernière fois la question du sexe et du glaive, c'est-à-dire de l'irruption de la sexualité dans le domaine de la pensée, de la philosophie, de la réflexion. 1000 ans de judéo-christianisme, plus de 1000 ans de judéo-christianisme, enfin dire de domination chrétienne, tout ça constitue effectivement une espèce d'épistémé, pour utiliser le mot de Michel Foucault, c'est-à-dire un terreau, un terrain chrétien, judéo-chrétien, même pour les gens qui sont athées ou même pour les gens qui sont agnostiques, c'est-à-dire qu'il y a une imprégnation chrétienne qui fait que la sexualité est réprimée, refoulée, niée, et que le personnage qui arrive en disant qu'il s'agit de s'occuper de ça, de se soucier de ça, de nommer tout ça, de raconter, de mettre en perspective cette répression et puis le malaise généralisé, c'est-à-dire de parler d'une étiologie sexuelle des névroses, eh bien tout ça effectivement peut contribuer au succès. Dans un deuxième temps, on avait examiné la question du glaive, c'est-à-dire de Saint Paul, s'il faut une figure emblématique susceptible de raconter ce que peut être l'universel ou l'occasion de l'universel. Vous avez eu Jésus et puis vous avez Saint Paul, et on peut imaginer que s'il n'y avait pas eu Jésus, Saint Paul plus Constantin, on n'aurait jamais eu le christianisme en Occident. Et de fait, il a fallu pour Freud qu'il ait l'équivalent d'apôtres, d'évangélistes, de personnalités qui soient susceptibles de construire cette pensée-là comme une religion. Religion entre guillemets, entendons-nous bien, je préciserai tout à l'heure pourquoi et comment. Je proposerai donc trois autres raisons cette fois-ci. L'idée que cette psychanalyse devient une religion d'après la religion, l'idée également qu'il en va de la psychanalyse comme d'un nihilisme qui correspond assez bien au nihilisme de l'époque, et puis je conclurai sur le malentendu freudo-marxiste, car nombre de gens pensent que ce que pensait Freud, c'était ce que pensait Reich, ou Marcuse, ou ces héros de mai 68, et vous le verrez, ça n'a pas grand-chose à voir. Donc troisième raison d'un succès, donc la proposition d'une religion d'après la religion, c'est-à-dire qu'il y a eu une religion sévère, austère, qui a eu réponse à tout pendant, je vous disais tout à l'heure, plus d'un millénaire. Avec le christianisme, vous aviez réponse à toutes les questions que vous pouviez vous poser. C'était une ontologie clé en main, une métaphysique clé en main, une philosophie clé en main. Tout était contenu dans la doctrine chrétienne. Il en va de même avec la psychanalyse, qui est aussi une vision du monde qui a réponse à tout. Les choses les plus simples, puisque la psychopathologie de la vie quotidienne vous dit que le moindre lapsus, le moindre acte manqué, le moindre oubli d'un nom propre peut signifier des choses considérables, puisqu'on peut accéder à l'intimité de votre inconscient, et puis pour des choses plus grandes aussi, la psychanalyse a une réponse à vous donner, c'est-à-dire pourquoi il y a la loi, pourquoi il y a la religion, pourquoi il y a la culture, pourquoi un jour les hommes ont créé le droit, parce qu'il y a eu, vous vous en souvenez, meurtre du père, banquet du corps, banquet avec le corps du père mort, etc., etc. Enfin, réponse à toutes les questions. Il y a eu 1914-1918, et on a peu dit que le XXe siècle s'est constitué à partir de cette boucherie qui a été la Première Guerre mondiale. Il y a eu évidemment le bolchevisme, la Révolution russe, 1917, puis la réponse au bolchevisme, une réponse totalitaire à un totalitarisme, donc réponse fasciste avec Mussolini, puis nazi avec Hitler, et la construction du XXe siècle à partir de cette immense boucherie, la guerre de 70, le traité de Versailles, l'humiliation d'un peuple. Enfin bon, il faudrait faire un petit peu d'histoire pour essayer de montrer combien effectivement le XXe siècle a été construit autour de la guerre 14-18. Hémorragie totale. Dans tous les villages, vous avez des monuments aux morts où on vous aligne le nom des forces vives qui sont allées au front et qui sont mortes dans un conflit que vous connaissez. Donc il y a effectivement une espèce de nihilisme, une absence de sens. Tout ça pour ça. Pourquoi ? Pourquoi mourir ? Pourquoi aller au front ? Pourquoi mourir quand on a 17 ans, 18 ans ? Pourquoi cette saignée dans l'Europe ? Pourquoi la haine entre la France et l'Allemagne présentée comme des ennemis héréditaires ? Enfin, il y a donc 14-18 et une espèce de disparition de la religion. Ça n'a plus de sens. Il faudra aussi ensuite Auschwitz pour considérer que Dieu ne s'est pas fait beaucoup entendre. 14-18 a effacé tous les repères éthiques, moraux, religieux, et d'un seul coup, la psychanalyse arrive comme une espèce d'idéologie de substitution. D'un seul coup, ce christianisme auquel on croit de moins en moins, d'un seul coup, on découvre une métaphysique nouvelle, une pensée nouvelle, une idéologie nouvelle. Elle est une proposition tout à fait singulière, évidemment pas auprès des gens les plus modestes ou des gens les plus simples, mais à partir des élites, les intellectuels, les avant-gardes esthétiques. Il faut dire également que la psychanalyse, en se popularisant, va devenir une espèce de vulgate. Et je suis très étonné aujourd'hui de constater l'inculture des psychanalystes, souvent, qui n'ont pas lu, qui n'ont pas travaillé, et qui se contentent de choses diverses et multiples, et dans nombre de cabinets qui se prétendent freudiens, eh bien, on prend des libertés avec Freud et le freudisme, on ajoute un peu de ceci, un petit peu de cela, une espèce d'éclectisme de la psychothérapie qui fait qu'effectivement, la psychanalyse se dilue. Le freudisme se dilue même chez les freudiens, comme le christianisme se dilue chez les chrétiens, ou comme le marxisme se dilue chez les marxistes ou chez les communistes. Vous avez des communistes qui ne croient plus à la lutte des classes, vous avez des chrétiens qui ne croient pas à la résurrection de la chair, et vous avez des freudiens qui doutent du complexe d'Édipe ou de la vérité de la pulsion de mort ou de ce genre de choses. Donc il y a une espèce de diffusion du freudisme, mais au détriment de la lettre, et plutôt dans le sens de l'esprit. Il se fabrique une espèce de vulgate dont Robert Castel a parlé en la nommant psychanalysme, une espèce de religion de la psychanalyse qui fait que tout le monde est vaguement concerné par ça. De la psychologie au sens large du terme, des psychologies positives et positivistes du 19e, puis des psychologies qui existent en même temps que Freud, puis des psychanalyses qui existent en même temps que Freud. Il y a donc, en plus de ça, volontairement, involontairement, je n'en sais rien, il y a un schéma chrétien qui est utilisé aussi bien pour la vie de Freud que pour la pensée ou que pour la diffusion. Pour la vie de Freud, c'est pas bien compliqué, il y aurait un travail à faire, mais là c'est pareil, je vous donne des pistes, parce que c'est tout un livre, c'est toute une critique à faire d'Ernest Jones et de la fameuse biographie qui sert de modèle aux autres biographies. Ce serait de faire une lecture en essayant de repérer les schémas chrétiens, voir comment, en fait, on nous raconte une vie de Freud comme on nous raconterait une vie de Jésus, une vie de Jésus-Christ même, de Jésus et du Christ. Vous avez, par exemple, la naissance d'une espèce d'enfant miraculeux, un personnage dont on nous dit qu'il va marquer l'histoire, simplement parce qu'il naît coiffé, comme on le dit. Alors, soit d'aucuns disent parce qu'il est né avec une abondance de cheveux noirs, d'autres disent non, naître coiffé, c'est naître avec le placenta sur la tête. Et donc, ce serait un signe du destin, dit-on, et je vous ai raconté que cette histoire de placenta a été sur la tête ou de cheveux abondants sur la tête de Freud. Freud l'a considéré comme une idée importante, intéressante, d'autant qu'il a ajouté à ça une diseuse de bonne aventure qui, un petit peu plus tard, fait savoir que l'enfant est appelé à un grand avenir, et puis un peu plus tard, dans un café du Prater, à Vienne, un autre individu faisant savoir qu'il sera peut-être ministre ou que ce sera de toute façon quelqu'un d'important. Donc cette idée, effectivement, de l'enfant distingué à la naissance pour être oint par le Saint-Esprit, d'une certaine manière, touché par la grâce, cet enfant a des choses à nous dire. Il y a quelque chose à voir également avec la vocation descendue du ciel sur lui comme une langue de feu qui viendrait le toucher et qui arriverait un jour alors qu'il est en train de faire des études, qu'il doute un petit peu de ce qu'il doit faire, et d'un seul coup il assiste à la lecture d'un livre de Goethe, de la nature, Et là, le ciel s'ouvre en deux. D'un seul coup, il découvre quelle est sa vocation. Il entre dans la vocation médicale en sachant très bien que médecin, il sera aussi philosophe, il sera également thérapeute et qu'il va découvrir quelque chose qui lui permettra de réaliser son propre destin. Lui aussi, à sa manière, il rencontre quelqu'un comme Jean le Baptiste. Il s'agit de Charcot à la Salpêtrière. On ne dit pas assez combien Charcot a fonctionné comme un modèle considérable et il n'y a pas grand-chose de l'hypnose, de la pratique hypnotique à la Salpêtrière par Charcot à la pratique psychanalytique du divan, des agencements personnels, quelques ajouts individuels, quelques contributions personnelles de Freud, certes, mais du détail. Sur le fond, l'idée qu'on pourrait solliciter un inconscient dans lequel se trouveraient des traumatismes et que la sollicitation de cet inconscient pourrait permettre de faire surgir du moins le traumatisme et que le surgissement du traumatisme induirait la guérison, ça c'est déjà chez Charcot. Ce n'est pas une invention de Freud, c'est déjà chez Charcot. Donc effectivement, il y a quelqu'un comme le Baptiste qui est là et qui donne à son disciple la voie à suivre, ce qu'il faudra faire pour réaliser son propre destin. On a également une mythologie d'un Jésus sans sexe. C'est un point de doctrine. Le renoncement à la libido est constitutif de la naissance de la discipline. Or, il n'a pas renoncé à sa propre libido. Mais comme Jésus, il n'a pas eu de sexe. Il n'a pas eu de sexualité. Il n'y a pas eu de femme. On est quand même bien obligé de consentir au fait qu'on aura une libido puisqu'on a eu 6 enfants. Donc, ça se fait tout de même pas par l'opération du Saint-Esprit. Et voilà pourquoi la sexualité est une question intéressante, d'autant que Freud nous dit que la sexualité de tout un chacun est la vérité de son être, mais sa sexualité à lui, elle demeurerait complètement scellée, on ne devrait pas en parler. Un jour, il aurait renoncé, et c'est parole d'évangile, donc il a renoncé. Et puis, on pourrait aller voir du côté du genre retraite au désert et épreuve initiatique. Freud nous fait savoir que la mort du père a été déterminante pour lui. On n'est pas bien sûr que ce soit aussi déterminant que ce qu'il veut bien dire, mais enfin, c'est ce qu'il appelle un petit peu plus tard, lui, des souvenirs écrans, c'est-à-dire des occasions qui sont présentées pour éviter qu'on aille voir d'un peu plus près ailleurs, dans d'autres endroits probablement plus intéressants d'un point de vue psychique. Mais il nous fait savoir également qu'à l'occasion de la disparition de son propre père, il démarre une auto-analyse qui est totalement mythique. Et je vous ai dit que c'était l'occasion aussi de renvoyer au schéma de la fabrication de Dieu. Et quand Aristote, par exemple, nous dit que Dieu, c'est la cause incausée, que c'est le premier moteur immobile, pour dire les choses autrement, toute chose est mouvement et tout mouvement suppose quelque chose qui le meuve. Et donc, il faut bien à un moment qu'il y ait une cause qui soit sans cause, qu'il y ait un premier moteur qui ne reçoive pas son impulsion d'autre chose que de lui-même. Et Aristote nous dit ça, c'est Dieu. Et bien sur ce modèle-là, Freud nous fait savoir qu'il est lui aussi la cause incausée, le premier moteur immobile de la psychanalyse, qu'il est le dieu de cette discipline nouvelle puisqu'il fait une auto-analyse. Personne ne pourrait me psychanalyser, dit Freud. Et pourquoi ? Et pourquoi donc ? Puisqu'il nous fait savoir, Freud, que Joseph Breuer, j'en reparlerai la fois prochaine, a inventé la psychanalyse avant lui. Dans un moment de lucidité, Freud dit « l'invention de la psychanalyse, ce n'est pas moi, c'est Joseph Breuer ». Donc on ne voit pas pourquoi Freud se serait dispensé de se faire analyser par Joseph Breuer, qui est l'inventeur d'une discipline, au dire même de Freud, quand il a un moment de lucidité. On verra que quelques temps après, il dira qu'il n'a pas dit ça exactement, et que si la psychanalyse sait ceci, lui, il a ajouté le fameux ceci, et que donc la psychanalyse, c'est bien son invention, et l'invention de personne d'autre. On peut également imaginer qu'il est porteur d'un évangile. L'évangile, c'est la bonne nouvelle, au sens étymologique, et il y a une bonne nouvelle psychanalytique. La psychanalyse soigne et guérit. De la même manière que Jésus vous fait savoir qu'effectivement il soigne et qu'il guérit, et que quiconque croit en lui est guéri, eh bien Freud fait savoir qu'effectivement quiconque croit en lui est guéri et susceptible d'une guérison également. Et puis on pourrait voir comment il y a aussi ce fantasme du nouveau compute, c'est-à-dire du nouveau calcul de calendrier. Et quand en 1917, Freud considère qu'il aurait dû avoir le prix Nobel, qu'il ne l'a pas eu et que c'est injuste, et que cette injustice, il la répare lui-même en disant « mais il y a eu 3 grands génies dans l'histoire de l'humanité, Copernic, Darwin et moi-même », eh bien, et il ajoute même « et moi-même un peu plus que les 2 autres », la bonne nouvelle, c'est lui. Lui, il secoue vraiment le cocotier, nous fait-il savoir, et il soigne et il guérit. Donc à partir de lui-même, on comptera autrement dans l'humanité. Il y aura un avant Freud et un après Freud. Lui, il change les choses. On ne peut pas complètement lui donner tort. D'une certaine manière, ça a réussi probablement au-delà de son espoir, encore que son espoir était grand. Et puis, vous pourriez aussi mettre en perspective, et ça, ce serait tout un travail à soi seul, les guérisons miraculeuses comme on les trouve dans les évangiles, les Moroïs, par exemple, Lazare, la résurrection de Lazare, l'aveugle et le paralytique, et puis Annaop, le petit Hans, l'homme au loup, l'homme au rat, ou tous ceux qui sont présentés comme des espèces de héros de la psychanalyse qui auraient été touchés par la grâce de Freud et qui auraient été guéris et définitivement guéris. On pourrait voir également comment une espèce de prédication dans le désert aurait pu exister chez Freud, c'est du moins la légende telle qu'elle est présentée. Il faut savoir que si Jones constitue la légende, il faut savoir qu'il la constitue avec Freud, et que Freud lui-même la constitue dans deux textes qui sont ces textes dont je vous ai beaucoup parlé, « Contribution à l'histoire de la psychanalyse » et soit « L'autoprésentation » ou « Ma vie et la psychanalyse », ça dépend de la traduction que vous préférez. Mais effectivement, Freud fournit le canevas et Jones brode sur le canevas en nous racontant les histoires dont Freud nous dit qu'elles sont justes. Et histoire juste, il aurait été calomnié par ses contemporains, il y aurait une reconnaissance extrêmement tardive, on ne se serait pas soucié de son travail, etc. Et quand des historiens de la psychanalyse, des vrais, parce qu'il y en a, font un vrai travail d'archives en allant voir non pas ce que dit Freud, mais en allant voir la vérité et la réalité, c'est-à-dire en cherchant par exemple les comptes rendus qui ont été publiés à l'occasion de la publication de l'interprétation du rêve, parce que ça, c'est faire un travail d'historien, vous apercevez que c'est pas aussi méchant que ça, que c'est pas aussi négatif que ça, que c'est parfois extrêmement élogieux et que ça a été très vite chroniqué, très bien chroniqué, et que très rapidement, la découverte de Freud a fait tache d'huile sur la planète entière, et qu'il n'y avait pas que Vienne, l'Autriche, l'Europe et le monde entier, très vite et très tôt, on parle de Freud, on discute Freud, on commente Freud, et puis on pourrait même imaginer que le schéma de la passion même, l'idée de la crucifixion de Jésus, la mort dans la souffrance et la souffrance pour la rédemption, eh bien ça peut être lu également en perspective avec l'exil et le cancer, exilé par les nazis, donc avec la mythologie d'un Freud qui aurait été essentiellement antifasciste, antinazi, radicalement antinazi, la psychanalyse étant elle-même totalement antinazi, légende comme on a eu l'occasion de le voir, et puis le cancer, ça pour le coup il n'y a rien à dire, douleur pendant très longtemps, souffrance pendant très longtemps, et aucune plainte, aucune jérémiade chez Freud qui a été parfait sur ce terrain-là et qui a vécu ça en philosophe stoïcien et qui est mort comme un philosophe stoïcien sur ce sujet-là. Mais construction d'une passion moderne avec le cancer et l'exil, et puis la mort et le début de la légende, c'est-à-dire Freud disparaît, mais les disciples sont là, la fille est là, c'est Antigone. Elle ne se mariera pas, elle ne connaîtra pas au sens biblique les hommes, elle sera d'une certaine manière l'épouse morganatique et virginale de son propre père, et elle produira la légende pendant des années. Elle se débrouillera pour que les archives soient inaccessibles, et encore aujourd'hui, les archives sont inaccessibles jusqu'en 2057 pour certaines. Il n'y a rien à cacher, mais les archives sont quand même mises sous embargo. Pour quelle raison ? Parce qu'il s'agit d'éviter de voir tout ce qui pourrait contredire la légende, d'accéder aux documents qui contrediraient la légende. Si on ouvre les archives un jour, ce qui se fera bien sûr, on découvrira que la légende a été écrite et que par définition, il aura fallu forcer le trait dans certains aspects et puis dans d'autres aspects, oublier, négliger, effacer ou nier un certain nombre d'informations. Tout ce qui montre que Freud est humain, trop humain, tout ça doit disparaître. Ça marche de la même manière avec Jésus, c'est-à-dire que vous connaissez quatre évangiles, ceux dont on dit qu'ils sont synoptiques, mais vous ignorez tous les évangiles apocryphes qui constituent pourtant la matière d'un volume à soi seul de Pléiade, et vous avez 2000 pages d'évangiles apocryphes. Et pourquoi apocryphes ? Parce qu'ils sont gênants pour l'idée qu'on veut se faire de Jésus. Eh bien là, c'est la même chose, la vérité historique, la légende n'en veut pas. Voilà pourquoi il y a des archives qui sont sous-scellées, voilà pourquoi il y a un certain nombre de choses qu'il est interdit de dire. Interdit, par exemple, de montrer Freud hésitant sur sa carrière. Il a tout de suite compris quel était son destin, donc il creuse son sillon, sachant très bien où il va. Et d'une certaine manière, la psychanalyse, elle sort comme de la cuisse de Jupiter, elle devait sortir du cerveau de Freud, toute armée. Donc Freud fait un travail qui est tout simple, il fait médecine, puis fait neurologie, puis il rencontre Charcot, puis, etc. Et puis vous avez une espèce de sillon qu'on vous présente comme extrêmement rectiligne. Ce qui est faux. Il y a une longue hésitation sur sa carrière et il n'est pas extrêmement performant. Il met plus de temps que ses compagnons pour aller jusqu'au bout de médecine. Il fait savoir également qu'il a découvert des choses extrêmement intéressantes sur la question de la sexualité des anguilles, etc. Et les gens qui ont travaillé sur ce sujet-là ont constaté qu'il n'a rien découvert du tout. Il a fait quelques publications, mais qui n'ont rien révolutionné du tout, contrairement à ce qu'on dit habituellement. Il ne faut pas montrer un Freud motivé par l'argent, l'ambition, la réussite, la gloire. Personnage qui veut absolument faire fortune, qui veut qu'on le connaisse très vite, qui veut que sa réputation soit planétaire. Voilà pourquoi, puisque ces choses-là sont extrêmement visibles dans la correspondance avec sa fiancée, et puis dans la correspondance avec Fliss, eh bien, ces correspondances-là ont été pendant très 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 longtemps inaccessibles, ou alors accessibles simplement sur le mode expurgé. Donc il ne peut pas se tromper, il n'a même pas besoin de chercher pour trouver, puisque d'une certaine manière il est animé par une espèce de feu sacré. Donc l'usage de la cocaïne et les erreurs de prescription de cocaïne qui induisent la mort de son ami, tout ça, ça disparaît, tout ça, c'est invisible pendant extrêmement longtemps. Il ne faut pas montrer un Freud qui quête compulsivement tout ce qui pourrait faire sa fortune, c'est-à-dire toutes les errances thérapeutiques, le personnage qui essaie l'hypnose, ça marche pas, il passe à autre chose, l'imposition des mains, ça marche pas, il passe à autre chose, électrothérapie, balnéothérapie dit qu'on ne gagne pas assez d'argent et qu'il passe à autre chose, alors on invente encore autre chose, on dit voilà, j'ai trouvé la psychanalyse, on nomme la psychanalyse en 1896, mais en 1910 on utilise toujours les psychrophores qui sont autant d'occasions de sondes gynécologiques pour envoyer dans l'urètre des hommes de l'eau glacée pour les soigner de la masturbation. Donc évidemment il ne faut pas montrer tout ça non plus, il ne faut pas dire tout ça non plus, il ne faut pas non plus rentrer dans le détail de l'auto-analyse. Chercher une date de début, une date de fin, parce que là, effectivement, on découvre que c'est un peu compliqué de parler véritablement d'une auto-analyse. Freud nous dit qu'elle est fondatrice, mais finalement, elle est assez introuvable, sauf dans la légende. On revient sur cette question de la sexualité de Freud. Il avait des pannes sexuelles, il n'était pas très performant au lit, tout ça est lisible dans les lettres à Fliss. Son prétendu renoncement à la sexualité, on découvre que ce n'est pas véritablement un renoncement. Donc, même chose, tout ça est très interdit. Et les historiens de la psychanalyse, notamment l'une d'entre elles, piquent des crises incroyables quand on aborde ce fait qui est avéré, c'est-à-dire de l'adultère de Freud, où il y a vraiment des gens qui ont fait un travail extrêmement sérieux, qui sont allés dans les archives des hôtels, qui ont découvert les registres, qui ont vu les noms de Freud avec sa belle-sœur, etc. Enfin, tout ça est clairement connu, et plutôt que d'être dans la négation de ce genre d'informations, il vaudrait mieux trouver une explication qui ne soit pas négation, parce que ça devient ridicule que de dire, quand on a de la confiture partout sous le nez, qu'on n'a pas mis son doigt dans le pot. Il faut laisser de côté également toutes les découvertes de son temps pillées par Freud, et ça c'est tout un travail qui a été fait par un personnage qui a consacré 500 pages d'un livre sur les lectures de Freud, de psychologues, de neurologues, de médecins, de psychanalystes, entre guillemets, qui sont ses contemporains. On reparlera la fois prochaine de Pierre Janet et de quelques autres. Évidemment, il ne faut pas parler de ça non plus. Il n'y a pas de précurseur chez Freud, et Freud n'a jamais lu personne. Et il y a même des psychanalystes qui font des choses extraordinaires et qui prétendent que tel individu, par exemple, on en parlera la fois prochaine, tel individu a pillé Freud, alors que la chronologie montre que les textes de Pierre Janet, en l'occurrence, puisqu'il s'agit de lui, les textes de Pierre Janet sont antérieurs à ceux de Freud sur le même sujet, mais vous mentez sur la date et vous laissez croire effectivement que quand une idée est chez quelqu'un, eh bien, ce quelqu'un l'a volée à Freud, même si cette idée-là, elle est 3 années avant Freud, chez un individu publié, édité, diffusé, c'est-à-dire dans des endroits qui sont susceptibles d'être examinés dans les archives, dans des revues qui sont dans des archives. Il ne faut pas parler non plus des guérisons qui n'ont jamais eu lieu, ça c'est interdit. Freud a toujours soigné, il a toujours guéri. Donc il y a aussi des gens qui ont commencé à faire des travaux, des recherches sur Annao par exemple, et sur d'autres, ou sur l'homme au loup, et qui sont allés voir, soit dans les archives, en ce qui concerne Annao, soit le rencontrer lui-même personnellement, Sergueï Pankaïev, et puis qui ont fait un véritable travail d'analyse et qui ont dit, ben voilà, il y a Freud qui dit qu'il a soigné et guéri, et puis il y a le patient qui nous dit qu'un demi-siècle plus tard, il est toujours en psychanalyse et qu'il n'a pas été soigné, qu'il n'a pas été guéri. Ce sont des faits historiques, ça va contre la légende bien sûr, mais ce sont des faits tout à fait constatables, à moins que d'imaginer que Sergueï Pankaïev a menti, a trahi, a trompé, dit le contraire de ce qui a eu lieu, et que quand Freud dit d'un individu qu'il l'a guéri et que ce quelqu'un dit qu'il n'a pas été guéri, eh bien c'est Freud qui a raison, que c'est l'autre qui se trompe. etc., etc. C'est-à-dire que tout ce qui montre effectivement qu'il y a eu des errances, qu'il y a eu des approximations, des affabulations, des mensonges, enfin tout ce qui montre un homme très humain, trop humain, eh bien effectivement tout ça, il faut le laisser de côté. D'où l'intérêt d'interdire la publication d'un certain nombre de correspondances, de publier des correspondances expurgées, de demander à ce que patte blanche soit montrée pour pouvoir aller travailler aux archives aux États-Unis, et puis même sans ça, de considérer que certaines archives, de toute façon, doivent être complètement sous embargo et qu'on aura le droit d'y accéder quand peut-être même la psychanalyse fera sourire tout le monde, même en France. Donc il y a un schéma chrétien qui fonctionne sur la figure de Freud, sur le personnage, sur la biographie, et on peut faire la même chose avec la doctrine. La doctrine fonctionne exactement de la même manière, c'est-à-dire on peut imaginer que la psychanalyse elle est présentée comme une espèce de parousie qui permettrait de racheter les péchés phylogénétiques. Quand vous avez vu des peintures où vous avez le Christ qui est sur sa croix et qu'au pied vous avez un crâne, eh bien le crâne qui se trouve au pied du Christ sur le Golgotha, c'est le crâne d'Adam. Dans la logique explicative de ces toiles et de ces peintures, c'est parce que le premier homme a été pêcheur qu'il est mort, et la preuve de sa mort, c'est le crâne qui se trouve au pied de la croix. Eh bien, là où Adam est mort, parce qu'il a commis le péché, eh bien, il a été possible d'installer la croix qui sauve des péchés du monde. Eh bien, c'est la même chose avec la psychanalyse qui se présente là comme une occasion de racheter les péchés phylogénétiques, souvenez-vous, totem et tabou, le banquet primitif, etc., l'ordre primitif, le meurtre du père, enfin toutes ces choses-là qui sont une espèce de faute originelle, enfin, une narration originelle, mais à partir de laquelle la psychanalyse vous dit, voilà, moi j'apporte le salut au monde, il y a une parousie psychanalytique, elle est présentée comme telle. On pourrait montrer aussi que, pour Freud, le vrai monde, c'est un monde immatériel, avec un inconscient, omniprésent, omnipotent, omniscient, incréé, immortel, invisible, enfin qui a toutes les qualités de Dieu, une espèce d'investissement, d'une figure jamais visible, mais de temps en temps visible par ses effets. L'idée qu'également il y aurait une providence, et que cette providence, elle interdirait le libre-arbitre. Quand Dieu existe, vous n'êtes pas libre. Et eh bien, quand l'inconscient existe, vous n'êtes pas libre non plus. Vous êtes déterminé par lui. Vous n'avez pas la possibilité de choisir. Vous êtes déterminé par un inconscient qui vous fait être ce que vous êtes et pas autre chose. On pourrait imaginer également que le fruit défendu dans le christianisme, eh bien, c'est l'équivalent de l'inceste chez Freud. Et dans le freudisme, il y a un inceste, c'est le fruit défendu, c'est le grand interdit, c'est l'interdit majeur. Il dit qu'il y aurait également une sotériologie, c'est-à-dire une philosophie du salut. Il y a une philosophie du salut. Freud fait savoir qu'il peut soigner, qu'il peut guérir, et que si vous vous allongez sur son divan, il y a un rituel qui vous permettra de vous trouver sauvé dans cette aventure. La rédemption, elle passe par la parole, et on peut imaginer aussi que ce qu'on appelle la confession auriculaire dans le christianisme, qui suppose que vous puissiez raconter vos péchés à un prêtre, et que le prêtre soit habilité à vous remettre ses péchés, et qu'il vous pardonne au nom de Dieu, moyennant trois paters, deux ave, eh bien là, c'est un peu la même chose. Le psychanalyste a les moyens de remettre vos péchés, moyennant quelques euros, sonnants et trébuchants, parce qu'il est habilité, effectivement, à assurer la rédemption. C'est lui qui assure la rédemption, et la thérapie, elle se fait par la parole. C'est parce que vous aurez confessé vos fautes qu'elles sont susceptibles d'être rachetées ou effacées. Eh bien là, c'est exactement la même chose quand vous aurez raconté vos fantasmes incestueux, vos histoires édipiennes, vos désirs de sœurs, de frères, ou etc., que le psychanalyste pourra mettre des mots sur tout ça et vous faire savoir que tout ça n'est pas bien grave, puisque c'est le complexe d'Édipe, puisque c'est le meurtre du père, puisque tout ça procède de la plus haute des antiquités préhistoriques, et que c'est la phylogénèse, et que donc on peut régler ce problème-là facilement. La vie donc de Freud est construite sur le modèle judéo-chrétien. La pensée de Freud sur le modèle judéo-chrétien, là c'est pareil, je vais à grande touche, parce que chaque sujet mériterait un long développement, mais ça ce sont des hypothèses de travail pour qui voudra. Il y a également la machine de guerre qui est fabriquée, la machine de guerre freudienne qui est fabriquée comme la machine de guerre chrétienne. Il s'agit de conquérir le monde entier. Donc on pourrait voir comment Dieu au ciel a son équivalent sur terre avec le pape, et comment cette figure, elle fascine Freud, bien sûr, dans sa logique à lui, figure de Moïse, et la figure du prophète susceptible de créer une religion. sur le mode de prophétique. Il y a chez Freud et dans le freudisme et dans la psychanalyse des évêques et des cardinaux, les psychanalystes du premier cercle et de la première heure, dont on oublie qu'ils sont constitutifs de l'intellectuel collectif qui rend possible la psychanalyse. La psychanalyse est une science découverte par des gens, et dont Freud. Donc les premiers psychanalystes de cette époque-là sont Adler, Jung, Ferenczi, Abraham, Stekel, Rank et quelques autres, dont on a parfois oublié le nom parce qu'ils n'ont pas produit d'œuvres, parce qu'ils n'ont pas rédigé, parce qu'ils n'ont pas publié. Vous avez le rituel avec les séances divines, les conciles avec les congrès, où on décide de ce qui est orthodoxe, de ce qui est hétérodoxe, de qui est hérétique, de qui on met à la porte de l'Église, de qui on excommunie, etc. Les évangélistes et les apôtres, Ernst Jones, j'en ai parlé déjà tout à l'heure, Ernest Jones comme l'évangéliste qui fournit l'évangile dont les autres évangiles procèdent. La figure de Judas, bien sûr, le traître, la trahison, avec Adler dans un premier temps, Jung ensuite, les ordinations, et comment on procède en distribuant des intailles, des signes qui font qu'on a choisi autour de soi les meilleurs et on les a désignés en considérant qu'ils étaient aptes à fonctionner comme les paladins de Charlemagne, souvenez-vous de l'expression. Donc voilà comment il y a une prégnance du schéma chrétien sur la vie de Freud, racontée comme une vie de Jésus, sur la pensée de Freud, construite comme une espèce de sotériologie, de religion de substitution, ou sur le fonctionnement de la mécanique freudienne sur la totalité de la planète. Des hypothèses, des propositions, bien sûr, à vous de voir et d'examiner. Il y a une matière à 5 ou 6 livres dans cette aventure, mais ne comptez pas sur moi pour écrire l'un d'entre eux, parce que ça fait beaucoup. Quatrième raison. Le siècle du nihilisme. J'ai parlé du nihilisme du XXe siècle comme du siècle du nihilisme avec la guerre 14-18. Il y a un nihilisme de l'époque et il est visible dans la disparition des valeurs, des vertus. Il y a des prospérités au vice et des malheurs à la vertu, pour utiliser les expressions de Sade. Et effectivement, c'est un siècle de prospérité du vice et de malheur de la vertu. Et d'un seul coup, il n'y a plus ni bien ni mal, ni chose à faire et chose à ne pas faire, ni normal et pathologique, mais Freud nous dit qu'il n'y a pas une différence de nature entre le normal et le pathologique, mais une différence de degré. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de gens normaux et de gens anormaux, et il n'y a plus que des gens diversement anormaux. Et ça, c'est une révolution. L'idée qu'on ne pourrait pas distinguer d'un côté des nécrophiles, des zoophiles, des pédophiles, des pervers, des sadiques, enfin tous ceux dont Krafft-Ebing parle dans sa Psychopathia sexualis, puis de l'autre côté, des gens à qui ça n'est jamais venu à l'idée d'avoir des relations sexuelles avec des morts, avec des enfants, avec des vieux, avec des animaux, ou encore moins avec des vieux animaux, ou avec etc. Donc on se dit, mais si effectivement tout ça est semblable, alors ça veut dire effectivement qu'on est tous un peu pédophiles, on est tous un peu zoophiles, on est tous un peu nécrophiles, et que c'est une différence de degré. Alors bon, après tout, qu'est-ce qui nous distingue véritablement ? Personne ne peut plus dire effectivement, celui-ci, il relève du normal, et celui-ci, il relève du pathologique. Donc il n'y a plus de raison qu'il y ait des endroits où on soigne, puisque personne n'est vraiment malade, puisque tout le monde est un peu fou, donc il n'y a pas de fou. C'est une espèce de confusion, de nihilisme ontologique qui produira au XXe siècle des effets assez singuliers, puisque toute l'intelligentsia se trouvera fascinée par les fous, par les schizophrènes, par les malades, par les pervers, par les tordus. Et on va faire de Lassner, par exemple, un héros. On va faire de Gilles de Rais un héros également. On va considérer que les criminels sont des gens extrêmement intéressants, que Nietzsche est intéressant parce qu'il est fou, que Hölderlin est intéressant parce qu'il est fou, que Artaud est intéressant parce qu'il est fou, et que tout le Nerval est intéressant parce qu'il s'est suicidé. Enfin, on va voir une espèce de fascination pour la pulsion de mort. Et moi, je persiste à penser, on verra l'an prochain avec Eric Fromm, qu'on peut vraiment, sans forcément parler du normal et du pathologique, et de considérer qu'il y aurait du bien ou du mal, considérer qu'il y a du bon et du mauvais, ce qui n'est pas exactement la même chose. Et quand Eric Fromm, par exemple, oppose les biophiles aux thanatophiles, eh bien, il n'est pas dans un jugement de valeur morale, et je n'ai pas envie d'être dans un jugement de valeur morale, mais il est dans une possibilité de penser le monde en disant effectivement qu'il y a des biophiles, des gens qui aiment la vie, et des thanatophiles, des gens qui aiment la mort. Et c'est assez facile de voir qu'il l'est autour de soi, des gens qui font triompher l'amour, le don, le partage, la sympathie, l'amitié, la fraternité, la générosité, etc., biophiles, et puis des gens qui sont des destructeurs, des gens qui n'aiment que la jouissance dans la souffrance, dans la douleur qu'on s'inflige, qu'on inflige, des gens qui aiment le mensonge, la perversion, qui sont, etc., etc. Donc il y a des natures biophiles, il y a des natures thanatophiles, c'est bon ou c'est mauvais dans une perspective hédoniste, dans une perspective de communauté ou dans une perspective d'intersubjectivité. En personnage thanatophile emblématique, Adolf Hitler, bien sûr, et on verra les analyses que Reich fait du fascisme, avec un beau livre qui s'appelle « Psychologie de masse du fascisme » et cette passion que les fascistes ont pour la thanatophilie. Vive la muerte, disaient les Espagnols, hein, vive la mort, et la capacité qu'ont les foules parfois à devenir thanatophiles quand elles sont magnétisées et fanatisées par des thanatophiles. Il y a une autre raison, donc quand je vous dis première raison dans ce moment-là, première raison, le fait que le nihilisme de Freud épouse le nihilisme de l'époque, le fait que le nihilisme de la psychanalyse soit en phase avec le nihilisme de cette civilisation qui s'effondre autour de lui. On peut ajouter également que le succès de la psychanalyse se trouve dans le fait qu'elle devient une pensée pour les avant-gardes esthétiques et littéraires. Et c'est important, l'avant-garde, dans l'après 1914-1918, dans l'après-Première Guerre mondiale. Vous avez un peu avant, un peu pendant, un peu après, parce qu'on peut voir avec Duchamp, on peut voir avec Tristan Tzara, on peut voir avec le futurisme et Marinetti, on peut voir avec le surréalisme et André Breton, comment effectivement cette pensée-là s'est trouvée vivifiée par un petit morceau prélevé dans le freudisme. C'est-à-dire que ce ne sont pas des gens qui forcément lisaient l'allemand, forcément lisaient l'œuvre complète de Freud à cette époque-là, qui, je le rappelle, n'était pas une œuvre complète terminée, c'était toujours un travail en cours. Et il reste encore une vingtaine d'années, un bon quart de siècle de travail à Freud. Donc ce qui fait illusion, c'est l'interprétation du rêve. 1900, c'est un ouvrage dans lequel on raconte des rêves en disant qu'ils sont plus vrais que le réel, en disant qu'ils ont une logique. Et souvenez-vous, les contenus latents, les contenus réels, enfin la possibilité des interprétations, l'idée que la sexualité serait derrière tout ça, ça fascine quelqu'un comme André Breton, qui fait le voyage à Vienne et qui rencontre un vieux bougon, Freud, qui n'est pas content de rencontrer André Breton, parce qu'il prétend qu'il n'a rien compris à ce qu'il a lu. En plus de ça, Breton est un Français, et Freud trouve que les Français ne l'aiment pas assez, donc il lui fait payer cette histoire-là, la vieille haine entre les Germains et les Gaulois. Et André Breton rentre, et puis peu importe la rencontre qui s'est mal passée avec Sigmund Freud, mais le surréalisme se développe avec cette idée qu'il y aurait l'inconscient, l'écriture automatique, les associations libres, etc. J'ouvre une parenthèse pour dire que l'idée d'utiliser l'automatisme de l'écriture pour parvenir à l'inconscient, c'est une idée qu'on trouve avant Freud chez Pierre Janet. Donc le surréalisme est fasciné par ça chez Freud, pas plus que ça, mais par ça. L'idée qu'il y a un continent qui se trouve là, nouveau, le rêve, l'inconscient, l'onirisme, la vérité du rêve, tout ça, effectivement, est un formidable courant d'air dans une France qui est spiritualiste, kantienne, qui, avec une philosophie dont on a oublié quelle était la philosophie des Renouvier, des Lachelier, des Bergson et de quelques autres. Donc on a cette fascination de l'avant-garde esthétique. Fascination également d'André Gide, qui lui aussi est intéressé par une partie de Freud et qui considère que tout ce qui est ego, construction de soi, c'est assez fascinant, l'auto-analyse, la possibilité de se découvrir, le Gide qui écrit son journal, évidemment, plus d'autres affinités, bien sûr, mais Gide qui est quelqu'un dont on a oublié aussi combien il a été important dans le XXe siècle, on le lit peu aujourd'hui, voire plus, et on oublie quelle figure majeure il a été auprès de la totalité des intellectuels, combien il était prescripteur. Ou Valéry à son époque, sont des gens qui ont beaucoup compté, eh bien, Gide est intéressé par la psychanalyse et converti la NRF, enfin Gaston Gallimard, donc la Nouvelle Revue Française et les éditions Gallimard qui commencent à traduire Freud et à diffuser la pensée de Freud et très précisément la pensée du rêve, et essentiellement la pensée du rêve. Et un peu plus tard, il y a Lacan qui va jouer un rôle extrêmement important dans les années 60, puis 68, puis post-68 tard. Lacan est quelqu'un qui vient de l'extrême droite et qui vient du maurrasisme et de Charles Maurras et qui ajoute à Maurras comme référence André Breton et le surréalisme. Et quand on a compris que le surréalisme comptait pour beaucoup dans son aspect provocation, ludique, hystérie, méthode paranoïaque critique, pour utiliser l'expression de Salvatore Dalí, qui lui aussi visitera Freud en exil à Londres, eh bien on comprendra effectivement beaucoup de Lacan et on comprendra qu'il y a toute une part de provocation extrêmement ludique que d'aucuns ont pris pour une théorie extrêmement profonde. Mais ça, c'est aussi toute une époque en France. La psychanalyse, dans les années 60-70, elle est tributaire du désinvestissement politique de l'après-mai. Mai 68 a eu lieu, d'aucuns ont cru qu'il y aurait une révolution politique. Il suffit de voir dans la rue les portraits de Mao, les portraits de Marx, les portraits de Lénine, les portraits de Che Guevara. On considère effectivement que le soulèvement de mai 68, qui n'est pas que germano-pratin, il n'y a pas eu qu'à Saint-Germain-des-Prés quelque chose en mai 68, il y a eu des choses partout dans le monde, voire Malraux qui raconte tout ça très bien, sur les campus américains, dans pas mal des pays européens, au Japon. Enfin, il y a eu un mouvement en mai 68. Et en mai 68, d'aucuns pensent qu'il y aura une révolution politique qui n'a pas lieu. Il y a eu en revanche une révolution anti-autoritaire, ça c'est clair, qui fait qu'on a touché à la figure du père, De Gaulle étant la figure du père emblématique, donc j'ai eu l'occasion de vous le dire, effectivement, on ne s'adresse plus de la même manière au père, au patron, au chef de famille, et il y a une espèce de rupture dans la question de l'autorité. Quand l'autorité est là, on ne la veut plus tombant du ciel, on la veut procédant du contrat. Le prof n'a pas à dominer l'élève parce qu'il est professeur. Et à ce moment-là, il y a parfois des excès. On se met à tutoyer le prof, à l'appeler par son prénom. L'histoire est fasciste, les dates, c'est fasciste. Donc on n'apprend plus ces choses-là. Le dessin, on n'apprend plus à dessiner. Enfin, il y aurait mille choses à dire sur les effets anti-autoritaires dans mai 68, qui a débouché finalement sur cette révolution métaphysique, mais en même temps sur le triomphe du pompidolisme, plus que du gaullisme, et puis la domination de la marchandise, l'avènement du libéralisme. On avait avant une espèce de vieux capitalisme paternaliste, et comme la figure du père se trouve effondrée, le capitalisme ne meurt pas, à l'évidence, mais en tant que capitalisme paternaliste, il disparaît et laisse place à un capitalisme libéral qui, lui, est violent, agressif, brutal, et qui va permettre l'accès bientôt en France de Giscard d'Estaing au pouvoir, qui lui considère que le marché doit faire la loi, et puis ensuite des socialistes qui considéreront qu'il faut encore aller plus loin que Giscard et laisser faire le marché, etc. etc. Cette histoire-là, vous la connaissez. On peut imaginer que ce désinvestissement dans le politique, il va générer quelque chose qui suppose un réinvestissement dans l'ego. L'ego qui est finalement le dieu des périodes de décadence. Comment bien vivre dans un monde qu'on renonce à changer? C'est vraiment ce que se pose comme question les gens qui ont cru à Marx, à Mao, à Lénine, à Trotsky, et qui ont voulu changer le monde et qui se sont retrouvés avec Pompidou, Premier ministre, puis chef de l'État. Qu'est-ce qu'on fait quand on a voulu cette révolution et qu'on obtient simplement une France bourgeoise, capitaliste, avec la société de consommation, les ouvriers qui ne veulent plus de la révolution mais qui veulent un frigidaire, enfin vous voyez la chanson de Boris Vian, et qui n'ont pas d'aspiration politique? Et bien à partir de ce moment-là, la psychanalyse prend une place importante, le divan permet de trouver sa place dans le nihilisme d'un monde qui s'effondre. Le monde n'a pas grand sens, on a cru à quelque chose qui n'a pas eu lieu, tout s'effondre, on a cru à la révolution n'a pas eu lieu, on fait quoi? Eh bien on s'en va sur le divan de Freud, puisque Freud fait savoir que politiquement on ne peut rien changer, la preuve est faite, mais que ce qu'on peut changer c'est son rapport au monde sur le divan, c'est-à-dire composer avec vos désirs, vos pulsions, etc. D'où le succès de Lacan, de la psychanalyse dans les années 70, etc. Ça peut expliquer également pourquoi ça a si bien marché en France et pourquoi ça marche encore aussi bien en France, alors que partout ailleurs sur la planète, ça a cessé vraiment de marcher. Hypothèse, toujours en vrac, on est dans une conclusion avec des propositions d'hypothèses. Dernière raison, la cinquième raison, le fait que le freudisme ait été médiatisé par le freudo-marxisme. Et ça, c'est assez singulier de voir qu'un personnage, Freud, qui aurait été le compagnon de route de tous les césarismes autoritaires de son siècle, c'est-à-dire qui trouve des vertus à Mussolini, qui défend politiquement l'austrofascisme du chancelier Dollfuss, qui travaille avec les nazis pour que la psychanalyse puisse continuer à exister sous le Troisième Reich, que ce Freud-là puisse devenir un Freud gauchiste. Que Freud qui nous dit que la libération sexuelle n'est pas une bonne chose, qu'on n'en finira jamais de toute façon avec les civilisations et les cultures qui sont répressives, puisque le propre d'une civilisation, c'est de réprimer les instincts, les pulsions et les passions, eh bien ce Freud-là devient une espèce de parangon de la libération sexuelle, de parangon de la liberté, de parangon d'un nouveau corps, d'un corps qui laisserait faire les passions, les pulsions, les désirs, le plaisir, etc. Donc il y a un vrai malentendu qui consiste effectivement à croire que Wilhelm Reich ou Herbert Marcuse, par exemple, eh bien, c'est Freud. Non, ce sont des freudo-marxistes, et on passera l'année prochaine entière à essayer d'examiner ce que veut dire freudo-marxisme. Le freudo-marxisme, enfin le freudisme du freudo-marxisme n'est pas freudien, et le marxisme du freudo-marxisme n'est pas marxiste. Marxien peut-être si on veut, mais il y a une espèce d'oxymore qui est produit par le freudo-marxisme qui va générer quelque chose de complètement autre que ce qu'aurait souhaité Freud, et cette pensée conservatrice, réactionnaire de Freud, elle va devenir, avec le freudo-marxisme, une pensée de la libération. Et voilà pourquoi quelques-uns, qui ont à peu près deux neurones, considèrent que toucher à Freud, c'est toucher à ça. Et c'est donc réactiver les thèses d'extrême droite, puisque Freud, ce serait le freudisme, et que le freudisme, ce serait ce freudisme des années 70, qui a été un freudisme libérateur. On reprendra les choses dans le détail, mais je voudrais quand même vous dire deux mots sur Wilhelm Reich, qui lui écrit un ouvrage considérable qui s'appelle « La fonction de l'orgasme » en 1927. Ça, c'est un article d'abord, et ensuite il ajoutera des textes, et si vous achetez aujourd'hui « La fonction de l'orgasme », eh bien vous aurez l'ensemble de l'ouvrage avec ses ajouts. Mais en 1927, il écrit un texte dans lequel, alors évidemment, du contemporain de Freud, chez qui il allait, et il faisait partie lui aussi de ceux qui construisaient la psychanalyse, et il consent à l'étiologie sexuelle des névroses. Il est d'accord avec Freud là-dessus. Il considère effectivement que la cause des névroses, elle est sexuelle. Mais il ajoute l'histoire. Il fait entrer l'histoire dans la psychanalyse. Ce que Freud n'a jamais fait. Freud, il a travaillé dans son petit cabinet, avec ses petites icônes, avec ses petites statues, avec ses Égyptiens, ses Babyloniens, avec sa bibliothèque, avec ses livres. Et le monde, pour lui, c'était son cabinet. C'était le 19 Berggasse. Pour Reich, c'est tout à fait autre chose. Le monde, c'est au-delà du cabinet de Freud. Et lui, pour le coup, il a un vrai souci des gens, des pauvres, des miséreux, des ouvriers, des employés, des gens qui n'ont pas d'argent. Il crée un dispensaire, il fait des cours d'éducation sexuelle, il distribue des tracts et des brochures qu'il édite et qu'il imprime à ses propres frais. Et puis, il considère qu'il faut ajouter à la psychanalyse un engagement politique à gauche. Et ça, effectivement, ça change la donne. C'est-à-dire, vous avez Freud dans la psychanalyse, et dans la psychanalyse, une aile gauche. Et l'aile gauche de la psychanalyse, c'est Reich, par exemple, puis par la suite, ce sera Marcuse et Fromm et quelques autres. On aura l'occasion d'en parler un petit peu plus tard, mais ce n'est pas du tout la même chose que Freud et le freudisme. La première édition de La fonction de l'orgasme, elle est dédicacée par Reich à Freud. Il écrit « À mon maître, le professeur Sigmund Freud, en témoignage d'un profond respect ». Il augmente l'édition avec un ouvrage qui s'appelle « L'origine sociale du refoulement ». L'origine sociale du refoulement. C'est-à-dire étiologie sexuelle, oui, mais étiologie sociale aussi. C'est-à-dire que quand on est femme, qu'on a peur d'être enceinte, qu'on n'a pas de moyens de contraception, qu'on subit la sexualité sauvage de son mari parce qu'il n'est pas éduqué, parce qu'on a les enfants qui sont dans la pièce à côté ou dans la même chambre, parce qu'on n'a pas à manger, parce qu'on souffre de la précarité, de la misère, parce qu'on est au chômage, parce que le mari peut boire ou je ne sais quoi, eh bien Reich fait savoir qu'on ne peut pas négliger ça. Et que l'inconscient n'est pas une espèce de truc éthéré qui volerait dans le ciel des idées, comme Freud a tendance à le croire, mais l'inconscient, c'est quelque chose qui est dans un corps subjectif, singulier, particulier, réel. C'est une révolution, la révolution de Reich. Il écrit un texte qui s'appelle « Le caractère masochiste » en 1932, et il explique que le masochisme, c'est le retournement de la pulsion de mort contre soi, je le dis un peu vite parce qu'il ne consentait pas exactement à la pulsion de mort, et que ce retournement-là, il a des explications politiques, sociologiques. C'est parce qu'on est frustré dans une existence qu'on retourne contre soi des pulsions de mort qui vont faire de nous des masochistes. Des gens qui vont s'infliger de la douleur et qui vont jouir de la douleur qu'ils s'infligent. Et Freud voit dans cette aventure, ce texte-là, qui nous dit en gros que le capitalisme a à voir avec les névroses qu'il propose, Freud parle d'une tentative de propagande bolchevique. Max Heitigon, le 9 janvier 1932, il considère effectivement que Reich est un bolchevique et que ça n'est pas pensable, ça n'est pas souhaitable, ça n'est pas possible qu'on puisse défendre ce genre de choses. Pour Freud, il le dit à Ferenczi dans une lettre du 24 janvier de la même année, la pulsion de mort est l'activité du système capitaliste. Il y a tout l'anti-Édipe de Gilles Deleuze et de Félix Guattari dans cette phrase-là. Et tout Mille plateaux, un grand livre des années 70, 80, 72 pour l'anti-Édipe, qui est tout entier dans cette pensée de Wilhelm Reich et à sa manière, à leur manière, Deleuze et Guattari étaient des freudo-marxismes des années 70. On verra le temps venu pourquoi et comment et de quelle manière. Anna Freud, qui a épousé toutes les idées de son père, considère effectivement que, en tant qu'il intervient dans des comités politiques, eh bien, Reich n'a pas à parler, n'a plus à parler. On lui interdit d'intervenir dans des comités politiques de gauche. Et Freud et sa fille travaillent avec les émissaires du Troisième Reich, Félix Böhm en l'occurrence, pour évincer un psychanalyste sous prétexte qu'il est bolchevique. On détaillera tout ça l'an prochain, mais Reich considère qu'il faut travailler à la libération sexuelle, que le problème des gens vient du fait que l'orgasme leur est interdit. Et on détaillera ce livre-là l'an prochain. Moi, j'ai lu ça quand j'avais 15-16 ans et j'ai trouvé ça fabuleux. C'est une espèce de schéma avec une abscisse et une ordonnée. Et on vous dit, voilà, sur l'intensité du plaisir sexuel et sur la durée du plaisir sexuel, voilà la ligne masculine. Et puis voilà la ligne féminine. Et regardez, si on ne fait pas d'efforts, si les hommes n'attendent pas les femmes et qu'ils ne se débrouillent pas pour que coïncident leurs deux lignes, eh bien, à aucun moment, ça ne coïncide. Et donc, les hommes sont des brutes épaisses et les femmes sont des frustrées. Et l'impossibilité de l'orgasme est la généalogie des névroses. Donc, s'il y avait une éducation sexuelle, s'il y avait une lutte contre les maladies sexuellement transmissibles, s'il y avait des préservatifs qu'il s'évertuera à donner, Reich, alors on pourrait peut-être envisager un genre de révolution sexuelle. On entrera dans le détail de toutes ces choses-là, promotion de l'éducation sexuelle, attaque en règle de la famille. Reich considère que la famille, l'État, l'Église, le pape, tout ça, ça produit des effets pervers considérables et que la famille, l'État, le prêtre, l'Église, tout ça, ça va générer une histoire particulière qui est l'histoire du fascisme. Et on fera aussi une analyse, après avoir fait une analyse de la fonction de l'orgasme, une analyse de psychologie de masse du fascisme pour voir comment les choses se passent, tout ça l'an prochain. Des considérations du patriarcat monogamique, c'est parce qu'il y a une construction patriarcale qu'il y a effectivement des névroses, charge contre le judéo-christianisme, et puis cette proposition d'une psychanalyse post-freudienne, du temps même de Freud, et d'un marxisme post-soviétique. Un temps, effectivement, il sera fasciné, Reich, par le bolchevisme. On est dans les années 20, donc à l'époque, le bolchevisme, on ne sait pas tout, et il est progressiste. Il se réclame du futurisme, c'est un mouvement d'avant-garde. Lénine est un intellectuel, c'est un lecteur de Hegel et de la phénoménologie de l'esprit. Donc il y a une espèce de fascination. Il en reviendra assez rapidement et constatera effectivement que le socialisme soviétique n'est pas défendable. Mais qu'en revanche, on peut défendre un autre type de socialisme. Donc un marxisme post-soviétique. Il pense également qu'on peut réaliser le bonheur sur Terre, Reich, et que le pessimisme ontologique de Freud n'est pas défendable. Il faut une espèce d'optimisme de la raison en disant on peut changer les choses. On peut changer les modalités de la sexualité, les modalités de l'intersubjectivité sexuelle, et alors, pour le coup, on produira une révolution à laquelle il aspire. Et la psychanalyse, pour le coup, elle peut promouvoir des fins hédonistes. Et on voit bien qu'on est tout à fait aux antipodes de Freud, du freudisme et de la psychanalyse. On comprend bien également comment mai 68 va pouvoir s'emparer de Reich, notamment à partir d'Herbert Marcuse, qui lui écrit un livre qui s'appelle « Eros et civilisation », dont le sous-titre est « Contribution à Freud ». Contribution à Freud. 1955, il s'inscrit vraiment dans le lignage de Reich, il le dit très précisément, il salue un livre de Reich qui s'appelle « L'irruption de la morale sexuelle », et lui aussi critique la société industrielle. Il considère qu'il faut lâcher la bride aux instincts, aux passions, aux pulsions, qu'il faut libérer la sexualité, abolir la répression sexuelle, qu'il faut également déconnecter la libido de la machinerie capitaliste. Là encore, on a du Deleuze, on a du Guattari tout cru, tout craché, et qu'il faut libérer les individus par la satisfaction de la totalité de leurs besoins. Il faut lutter pour la vie, pour le plaisir, donc pour la joie, promouvoir un usage politique de la culture. C'est-à-dire la culture n'est pas un instrument de marquage social ou de reconnaissance sociale, mais le savoir, c'est du pouvoir. C'est ce qui nous mène d'ailleurs, tous les amis et moi, à l'Université populaire. L'idée, effectivement, que la culture n'est pas un signe de distinction sociale, que la culture n'est pas une occasion de briller, n'est pas une occasion d'humilier celui qui n'en aurait pas, mais que c'est une occasion de penser le monde pour pouvoir agir sur le monde et éventuellement le transformer. Ce que veut le freudomarxisme, aussi bien Reich que Marcuse, c'est de faire de telle sorte que le principe de plaisir fasse la loi et que le principe de réalité soit secondaire. Freud dit le principe de réalité écrase le principe de plaisir, c'est toujours comme ça que les choses se passent. Eh bien, le freudomarxisme dit qu'il faut que ce soit l'inverse. Il faut informer le principe de réalité avec le principe de plaisir. C'est tout ce qui fait le sens du freudo-marxisme. Je conclurai donc cette séance en vous disant que l'année prochaine sera consacrée à examiner le freudo-marxisme, donc Wilhelm Reich, Herbert Marcuse, Erich Fromm, voir comment, si on critique la psychanalyse de Freud, on ne critique pas toute la psychanalyse, et qu'il y a une psychanalyse après Freud, puisqu'il y a une psychanalyse pendant Freud, et qu'il y a même une psychanalyse avant Freud. Donc ça, ce sera l'occasion, pour le coup, de la conclusion de ma conclusion, c'est-à-dire de la séance de la semaine prochaine, qui sera l'occasion de vous dire qu'on peut, à partir justement de Reich, de Marcuse, mais aussi de Politzer, dont je vous parlerai un petit peu plus la semaine prochaine, et de sa psychologie concrète, proposer aujourd'hui une psychanalyse post-freudienne qui soit une psychanalyse non-freudienne. Voilà, merci beaucoup. Si vous voulez vous initier un petit peu, mais ils sont difficiles à trouver, mais on peut avec Internet aujourd'hui, vous initier à Reich, vous avez de Jean-Michel Pamier un joli, beau livre de synthèse qui s'appelle Wilhelm Reich, et qui est sous-titré « Essai sur la naissance du freudo-marxisme ». Et puis, vous avez également, du même, un Herbert Marcuse, même chose, de Palmier, toujours aussi chez 10-18. Une synthèse de la pensée de Reich, de Konstantin Sinelnikov, l'œuvre de Wilhelm Reich, qui est une nouvelle édition pour les Nuits Rouges, et qui est une édition présentée par Jean-Marie Brome. D'Erich Fromm, « L'art de vivre », chez Desclés de Brouwer. L'œuvre de Fromm est extrêmement importante, mais on ne considère pas assez à sa juste valeur la psychanalyse d'Erich Fromm, qui est un penseur extrêmement intéressant. De Canguilhem, Le normal et le pathologique, aux éditions Vrin. Georges Canguilhem est quelqu'un qui a beaucoup lu Georges Politzer, dont je vous parlerai un peu la fois prochaine, et son fameux essai de psychologie concrète, et vous verrez qu'ils ont été nombreux à le lire, à le commenter, voire à le piller, Lacan le premier. Si vous voulez un peu savoir qui était Lacan, comment ça fonctionnait, vous pouvez lire de Catherine Clément « Vie et légende » de Jacques Lacan, au livre de poche. Canguilhem, lui, réfléchit sur les notions de normal et pathologique. Ça a beaucoup produit d'effets chez Michel Foucault, cette pensée-là. Et puis d'Alain de Mijola, un gros travail dont j'ai déjà eu l'occasion de vous parler, qui s'appelle « Freud et la France ». 1885-1945, aux Presses universitaires de France. C'est le premier volume d'un ouvrage qui en comportera deux, m'a-t-il dit. C'est un vrai travail d'historien, et vous aurez le détail, si ça vous intéresse, de la pénétration de la psychanalyse en France avec, je vous en parlais tout à l'heure, avec André Breton, le surréalisme, avec ce que Valéry a pu en dire, ce que Gaston Gallimard envoie comme lettre à Freud pour obtenir les droits, etc. Enfin, c'est un vrai document extrêmement important, un ouvrage de bibliothèque. Voilà pour la bibliographie.
C'était les conférences de l'Université populaire de Michel Onfray. Régisseur son au Centre dramatique national de Normandie, Michael Migne. Prise de son, Jean-Noël Durand, France Bleu Basse-Normandie. Mixage, Pierrick Charles. Réalisation, Véronique Villa. Demain, pour une psychanalyse non freudienne.